de vive voix, Serge Moisson.
Dernier épisode de la saga des Windsor, une dynastie fascinante avec Jean Descartes. Juillet 47, Elisabeth et Philippe se fiancent.
Alors, la princesse héritière Elisabeth va très vite, elle avait 16 ans, tomber amoureuse d'un superbe officier de marine, Philippe de Grèce, hein, qui est apparenté à la famille royale de Grèce. Philippe Mountbatten, mais en fait c'est encore un nom allemand à l'origine, Battenberg, c'est la même chose, qui sera un neveu du fameux amiral Lord Louis Mountbatten, qui était un personnage considérable, le héros de la guerre en Birmanie. Alors, le roi George VI et la reine Elisabeth ont demandé à leur fille, la princesse, d'attendre, de se stabiliser, pour être sûre qu'elle ne se trompait pas, car c'était l'engagement d'une vie. La princesse Elisabeth, il faut le dire, avait à peu près 15 ans au moment de la déclaration de guerre, 14 ans. Et très vite, à 17 ans, pendant la guerre, elle est appelée par son père à prendre connaissance des messages confidentiels dans les fameuses boîtes rouges. Donc elle a une expérience du pouvoir qui vient de très, très loin. Et c'est après un voyage officiel au Kenya, en 1952, qu'elle apprend, avec un certain retard compte tenu des conditions de l'époque, le décès prématuré de son père, qui était un grand fumeur, mais qui s'était épuisé à défendre l'identité nationale. C'était un roi combattant, hein, qui ne quittait pas Churchill et qui intervenait partout secrètement. Le travail, je dirais, peu connu de George VI est absolument remarquable pour la cohésion nationale. Et il a lavé la tache de la monarchie souillée par l'abdication, mais a même hissé, je dirais, le trône britannique à un rang qu'il n'avait jamais connu. Bon. Elisabeth et Philippe sont donc en voyage. La reine était partie en tenue claire. Elle revient en noir parce que la famille royale voyage toujours avec des vêtements de deuil. Et là, il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que elle va retrouver Churchill, qui avait été battu aux élections en 1945. C'est quand même incroyable. L'homme qui a sauvé l'Empire et qui a lutté, etc., il est battu par les travaillistes alors que se tient la conférence de Potsdam, où se trouve Churchill, parce que les Britanniques ont pensé que si Churchill était bien pour faire la guerre, depuis son cabinet secret, son bunker à 6 mètres sous terre, pour la guerre économique, pour les prestations sociales, pour la reconstruction, il n'était pas l'homme qu'il fallait. Donc, il est battu. Et Churchill se venge de son vainqueur rival travailliste, Clément Attlee, qui était assez terne, il faut bien le dire, en disant « Un taxi vide s'arrête devant le 10 Downing Street, Monsieur Clément Attlee en descend. » Ça, c'est tout à fait l'humour féroce de Churchill. Mais finalement, la reine Elisabeth retrouve Churchill, puis les conservateurs ayant gagné les élections, et elle va former un couple politique extraordinaire avec le vieux lion, qui a déjà 77 ans, et qui trouve qu'elle est d'une grande sagesse, d'un grand raisonnement politique, d'une grande clairvoyance. Et on verra, avec les crises qui vont être, je dirais, domptées jusqu'à 1955, avant la crise de Suez, on verra quelque chose d'étonnant. Le Premier ministre, Churchill, invitera la reine à Downing Street à dîner. C'est-à-dire que le gouvernement invite l'État à dîner. Alors ça s'était fait pendant la guerre et dans des conditions précaires. Là, c'est somptueux, en habit. Churchill porte son grand cordon de l'ordre de la Jarretière de travers, mais c'est pas grave. Et la reine a mis des bijoux extraordinaires pour honorer son hôte. Et elle va porter un toast à Churchill, et qui va porter un toast à la reine. Et il tiendra la porte de sa limousine quand elle repart. C'est assez fantastique. Il mourra 10 ans plus tard. Et quand on demandera à Elisabeth II ce qu'elle pensait de Churchill, bien qu'elle soit tenue à une réserve classique, elle dira ce mot merveilleux, il était divertissant. En effet, Churchill était tout sauf ennuyeux. Il était peut-être impossible, mais comme a dit une des grandes ladies qu'il a connues, dès qu'on le rencontrait, on voyait tous ses défauts, mais ensuite on ne se souvenait que de ses qualités.
Il y a eu un événement, bien évidemment, c'est le couronnement de juin 53, la télévision est là, le monde entier.
Oui, un événement médiatique. Alors, il faut rappeler qu'il y avait déjà eu, enfin, bon, avec George V, il y avait eu des tentatives pour filmer, on a filmé le couronnement de George V, mais la télévision évidemment était balbutiante, et puis George VI, s'il avait un problème de bégaiement en direct, on ne pouvait pas remettre l'image, enfin ça aurait été de toute façon plein d'aléas. Alors là, en 1953, le couronnement est télévisé, et ensuite le film sera montré partout, en couleur, ce qui va être la première invasion médiatique de la famille royale, je dirais, qui par la suite s'en serait peut-être passé, mais enfin ça c'est le problème des relations infernales avec les médias. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Beaucoup de choses. Ben, par exemple, personne n'a vraiment remarqué ce jour-là qu'au couronnement de sa sœur, la princesse Margaret, celle que préférait George VI, avait brossé l'épaule d'un brillant officier qui était le groupe Captain Peter Townsend, héros de la bataille d'Angleterre dans la Royal Air Force, qui a l'inconvénient d'être marié, bien entendu. Et Margaret n'aura pas l'autorisation de se marier. Elle devient, c'est une des légendes de l'après-guerre, dans les années 60, elle devient la princesse triste. Il y a eu Soraya aussi, dans le même cas, pour d'autres raisons. Et finalement, elle épousera quelqu'un d'autre, comme on sait. Voilà. Alors, George VI avait une fille favorite, qui était Margaret, parce qu'elle l'amusait par ses imitations, ses dons de théâtre et de comédienne, mais il n'avait confiance qu'en Elisabeth.
Elle n'a pas été heureuse, alors, Margaret.
Elle n'a pas du tout été heureuse, Margaret, parce qu'elle a épousé Tony Armstrong Jones. Et puis, tout de suite, il y a eu un désaccord dans la mesure où elle aimait les Antilles, l'île Moustique, et lui, pas du tout. Et elle va continuer une vie malheureusement désœuvrée, sombrant dans l'alcool, multipliant les liaisons, et donnant une image de la monarchie à nouveau peu glorieuse, qui vaudra une interpellation aux communes, disant est-ce que nous allons payer pour une ivrogne, etc. Donc et ce sera terrible, parce que la reine Elisabeth adorait sa sœur, et donc Margaret va finir très mal. Et là, il y a quelque chose d'étonnant, c'est qu'une tragédie supplémentaire, elle va mourir avant sa mère, avant la reine-mère Elisabeth, Margaret, laquelle reine-mère, elle, était alors une institution, meurt à l'âge de 101 ans, et la reine-mère était fantastique parce qu'on se souvient d'elle avec ses bibis, ses chapeaux à fleurs, verts, jaunes. Alors, c'était simple, elle disait « je suis là pour qu'on me voie ». Alors en effet, on la voyait. Et quand on parlait de mesures de sécurité, elle disait « Hitler ne m'a pas eu, je ne crains personne ». Bon, elle a été reçue dans ma famille, elle a renvoyé les deux détectives de Scotland Yard attachés à sa sécurité en leur disant « je n'ai pas besoin de vous ». Bon, elle tenait grâce au jean, au dubonnet, c'était une professionnelle de la monarchie. Elle avait été fantastique pendant la guerre, allant en grande tenue, tenue sobre contre les événements, mais quand même une grande tenue, et non pas en uniforme, au milieu des gens, au milieu des ruines et des gravats, en disant « mais si les gens venaient me voir, ils mettraient leurs plus beaux habits, je mets ce que j'ai de mieux pour les honorer ». Et elle a aidé les gens, elle était très très populaire. Queen Mum, à chaque anniversaire, les autobus londoniens, les fameux autobus rouges dans les grandes villes du Royaume-Uni, écrivaient au lieu de la destination « Happy Birthday, Queen Mum ». Elle aimait beaucoup les chansons d'Edith Piaf et c'était une spécialiste des fantômes aussi. Elle avait tenu une rubrique sous un pseudonyme dans une gazette très chic sur l'histoire des fantômes parce qu'elle avait passé sa jeunesse au château de Glamis en Écosse, qui est le château où Shakespeare situe Hamlet, alors il y avait de quoi faire.
Alors, évidemment, cette dynastie des Windsor est traversée par des scandales, on en a parlé, mais aussi par des drames, on va en dire quelques mots, puisqu'on en a beaucoup parlé, Diana.
Alors, il y a un premier drame avec l'oncle Mountbatten qui est assassiné par les rats, n'est-ce pas, en 1977, qui a été un choc et qui a discrédité les terroristes irlandais. C'était un homme extraordinaire, un grand soldat et avec une belle allure. Et puis alors, il y a le... J'allais dire, avant la tragédie de Diana, il y a le problème Diana. Bon. C'est une jeune fille, sans doute trop jeune, et qui n'avait pas la maturité, je pense, pour comprendre que certaines choses se font, peuvent se faire, d'autres ne se font pas. Bon. Alors qu'elle ait découvert que Charles, en fait, avait eu un coup de foudre dès 1971 pour Camilla et qu'il n'allait pas interrompre sa liaison, on comprend. Mais lorsque des arrangements lui ont été proposés directement par la reine, des arrangements en tout genre, et qu'elle était tenue au secret absolu, et qu'elle les a révélés, là, elle montrait qu'elle était provocatrice. Et malheureusement, Diana, paix à son âme, était une provocatrice avec les médias jouant à cache-cache avec eux, puis s'ils ne la trouvaient pas, elle les appelait. Ce qui veut dire que, dès que le prince de Galles sortait à son bras, On ne voyait qu'elle, on ne parlait que d'elle, et on ne parlait pas de lui. Bon, il a été très effacé et certainement très humilié par la popularité croissante et dérangeante de sa femme. Quant à la fin de Diana, il me paraît y avoir des zones d'ombre, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que j'étais à Paris, j'étais derrière l'ambulance qui a été appelée à son chevet à 20h sous le pont de l'Alma. Je peux rappeler simplement qu'elle partait, elle avait un projet de voyage imminent pour aller en Palestine, auprès des Palestiniens, et faire une campagne anti-mine, anti-personnel, ce qui donnait un rôle politique à sa présence, qui ne convenait pas avec son statut. Et si jamais on avait provoqué sa fin, à mon avis, la famille royale n'y est sûrement pour rien, même si elle l'a beaucoup dérangé, mais les intérêts supérieurs britanniques pouvaient se trouver compromis par des engagements politiques et des déclarations malvenues. Bon. Ce qui est intéressant, c'est le choc émotionnel provoqué par sa mort, que la reine Elisabeth et son mari n'ont pas compris. Et là, c'est un choc sans précédent. La reine était en Écosse, elle était très déçue de son ex-belle-fille, elle lui avait proposé des choses tout de même confortables, et elle s'était mal comportée, mais ça venait de loin. Diana était arrivée souvent en retard au déjeuner ou au dîner avec la reine, ce qui n'est quand même pas un signe, je dirais, d'équilibre et de conscience de maturité, parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus malin en faisant ça. Bon. Quoi qu'il en soit, une opinion mondiale s'est enflammée pour le destin tragique de Diana, encastrée sous le 13e pilier du pont de l'Alma. Et là, il se passe 4-5 jours de silence royal avant que le Premier ministre, Tony Blair, n'obtienne que la reine apparaisse et se manifeste. Et on a cette image saisissante que j'ai reproduite dans mon livre de la reine et du duc de Edimbourg sortant à pied de Buckingham, à pied, devant la foule hostile et des montagnes de fleurs qui dépassent la hauteur des grilles. La reine a compris qu'elle avait raté le coche, et le soir même, elle a fait une déclaration à la télévision. Le texte avait été passé au crible par le cabinet et par le palais. Et je pense qu'il a fallu des années pour raccommoder l'institution monarchique et le peuple, toutes catégories confondues. Ils ont été dépassés par l'engouement, parfois un peu, je dirais, anormal, n'est-ce pas, la médiatisation de la mort de Diana. Il y en a un exemple à Paris qui a été assez, il faut bien le dire, ridicule. Je voyais, place de l'Alma, des bandes de jeunes qui se recueillaient dans un endroit particulier. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une flamme en bronze doré. Vous savez, c'est à mémoire de Diana. Non, c'est un morceau de la statue de la liberté de Bartholdi, une maquette qui avait été posée là par la ville de Paris en hommage à la statue de la liberté. Ça n'avait rien à voir, mais il a fallu que la ville de Paris mette une pancarte pour dire « Ceci n'est pas un hommage à la princesse de Galles, c'est un morceau de la statue de Bartholdi. » Donc, vous voyez, l'émotion continuait, ça a duré des années. Bon. Elle était jolie, mais à mon avis, pas très fine, pas très intelligente, et je dis bien provocatrice, manipulant les dernières, ce qui est toujours une bombe à retardement. Ça se voit dans d'autres affaires plus récentes.
Jean Descartes, d'autres scandales, bien sûr, il y en a dans votre livre. Je rappelle le titre, La saga des Windsor, c'est chez Perrin. Mais j'aimerais que l'on termine avec, entre guillemets, aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a l'impression que tout va bien. Camilla et Charles sont heureux. Kate a épousé l'un des fils.
Aujourd'hui, la monarchie britannique, sauf incident imprévu, se porte beaucoup mieux. La reine Elisabeth va entamer en 2012 le 60e anniversaire de son accession au trône. Donc elle marche sur, je dirais, le record de la reine Victoria, qui était 64 ans. En 60 ans, la reine Elisabeth II en a vu passer du monde et des actualités, que de changements. Elle semble avoir trouvé une sérénité avec Philippe, qui était célèbre pour ses gaffes diplomatiques et tout. Et on a vu la reine sourire au mariage du 29 avril dernier, au mariage de William et Kate. Son petit-fils est d'ailleurs très courageux. J'étais à Londres il y a quelques jours et l'opinion était très fière de voir que le duc de Cambridge, puisque c'est son titre, le prince William, qui est pilote d'hélicoptère, est allé sauver des gens en difficulté en mer d'Irlande dans une tempête. Évidemment, Kate Middleton est ravissante, elle a fait l'unanimité, il y a eu un sans-faute au mariage devant ses 2 milliards de spectateurs, et on attend évidemment un héritier de ce niveau, et actuellement les sondages donnaient, il y a 2-3 mois, 79% des Britanniques souhaitaient que William devienne le monarque, mais je pense que le pauvre Charles, un peu comme Édouard VII, il a attendu si longtemps, serait-il un bon roi? Seul l'avenir le dirait. En tout cas, lui prendrait une décision, il s'installerait à Windsor, déplacerait le siège de la résidence britannique, ce qui serait un retour à ce qu'a fait George V en 1917, et ce qui est le début de mon travail.
La saga des Windsor chez Perrin. Merci Jean Descartes. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'écouter pour vous remercier de nous avoir accordé ces entretiens?
Eh bien écoutez, comme Shakespeare a écrit les joyeuses commères de Windsor, je suggère la bande sonore, la musique originale du merveilleux film Shakespeare in Love, qui montre le travail du dramaturge au milieu de sa vie privée, en admettant que Shakespeare a existé, bien sûr, et que ce ne soit pas un de ses concurrents qui s'appelait aussi Shakespeare. Voilà.